France Info.
Marseille, laboratoire du futur, ou Marseille, recyclage de vieilles idées sans avenir. C'est un peu le débat que pose l'expérimentation dans l'éducation nationale que propose Emmanuel Macron, des directeurs d'école qui pourraient choisir leur équipe pédagogique. Question de motivation, notamment dans les quartiers les plus difficiles, dit le chef de l'État. Réponse complètement à côté de la plaque. Provocation, dénonce plusieurs syndicats enseignants sur France Info. Le SNUIPP-FSU dit que ça déroge aux règles. Bonjour Johanna Yakin.
Bonjour.
Dites-nous d'abord en quoi c'est... Qu'est-ce que exactement est ce statut du directeur d'école ?
Ben justement, il n'a pas de statut particulier actuellement dans le premier degré. Donc en maternelle et en primaire, le directeur d'école n'a pas de pouvoir hiérarchique sur les enseignants. Leur seul chef, c'est l'inspecteur de l'éducation nationale. Le directeur ou la directrice, lui, elle, c'est un professeur des écoles comme les autres à qui on a simplement confié une mission particulière. En fait, c'est un peu le premier d'entre eux. Très souvent, il a d'ailleurs lui-même une classe à gérer, mais à côté de ça, donc, il a des responsabilités en plus. En gros, il doit veiller à la bonne marche de l'école, assurer la sécurité, l'administratif ou encore le lien avec la mairie. Il est simplement payé un petit peu plus pour faire ça.
Et justement, réformer le statut du directeur d'école, ça fait un moment qu'on en parle, Johanna.
Oui, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, disait ouvertement dès 2018 qu'il voulait arriver à un changement de statut des directeurs. Une proposition de loi a été déposée en 2020 par une députée LREM pour donner au directeur d'école ce qu'ils appellent une autorité fonctionnelle. En clair, il deviendrait bien un supérieur hiérarchique avec une délégation de pouvoir de la part de l'inspecteur, donc plus de pouvoir, même si le texte, en l'état actuel, en tout cas, ne prévoit pas qu'il puisse choisir lui-même ses enseignants. Mais ça ne plaît pas aux syndicats. Ils refusent qu'il puisse devenir un supérieur hiérarchique. Historiquement, dans le premier degré, on travaille en collégialité. Selon les syndicats, le directeur doit plutôt avoir des moyens supplémentaires, par exemple être davantage déchargé, c'est-à-dire remplacé dans sa classe pour pouvoir assurer ses missions de directeur, ou encore qu'il est une secrétaire pour l'aider au quotidien.
Johanna Yakin de la cellule du vrai du faux, merci beaucoup. Et bonjour Marc Vanesson.
Bonjour.
Vous êtes fondateur du cercle de réflexion Vers le haut, dédié aux jeunes et à l'éducation. Ce qu'il faut peut-être dire d'abord, c'est que choisir son équipe pédagogique dans l'éducation nationale, primaire ou même collège ou lycée, ça va un peu à l'encontre des principes actuels. Ça serait une sorte de révolution, hein.
Oui, c'est vrai. Pourtant, c'est ce qui se passe dans quasiment tous les autres pays de l'OCDE. Et même en France, en fait, ça existe déjà. Hein. Il y a déjà 6% des enseignants qui sont, sur ce qu'on appelle des postes à profil. Mais aujourd'hui, c'est surtout, par exemple, dans les classes préparatoires ou les BTS. Donc, c'est un peu bizarre de réserver ça pour juste les classes d'élite, entre guillemets, et pas permettre ce mode de recrutement dans tous les établissements.
Justement, on choisit, puisque vous parlez des établissements d'élite, on y choisit parfois, même souvent, ses élèves. Et là, ce serait dans les établissements difficiles qu'on choisirait les enseignants, ça serait ça la logique ?
En fait, il faut voir que la clé de l'éducation, c'est la relation. Donc vraiment, on peut faire toutes les réformes qu'on veut de l'éducation nationale. Si on n'a pas devant les élèves des gens motivés, formés, enthousiastes, eh ben, on se plante, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, il faut sortir d'une logique complètement dépersonnalisée où les enseignants sont affectés en fonction de leur ancienneté. Ils ont des nombres de points et après, ils candidatent de façon assez obscure et il n'y a aucun échange préalable sur un projet pédagogique, une envie, des motivations, des compétences des enseignants. Donc il faut rentrer dans une dimension personnelle et c'est pour ça que ça serait intéressant d'avoir cette capacité pour les chefs d'établissement de choisir leur équipe pédagogique, mais aussi la capacité pour les enseignants de choisir leur établissement et de candidater là où ils ont envie de participer au projet.
Ça, c'est un monde rêvé, ça.
Bah, ça existe donc déjà.
Non, mais chacun choisit, voilà, je vais là où je veux. Tant mieux, hein, mais comment on fait ça?
Disons que le système actuel, en tout cas, il peut pas durer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les enseignants en début de carrière, comme ils ont peu d'ancienneté, ils sont affectés dans les établissements les plus difficiles, et très rapidement, ils veulent bouger. Donc on a un sur-turnover, une rotation très forte des équipes dans les établissements les plus difficiles, alors que c'est là où justement on a besoin de construire du collectif, de pouvoir avoir de la pérennité, de l'enthousiasme partagé. Donc vraiment, l'enjeu, c'est de construire ça au niveau des établissements et de sortir d'une logique purement bureaucratique de la gestion des carrières des enseignants.
Les syndicats disent qu'il y a d'autres réponses possibles, moins d'élèves par classe dans ces établissements-là, plus de moyens, c'est un argument qui est audible, qui est recevable.
Mais tout à fait, hein. Alors, Alors, ce serait vraiment une folie de croire que c'est ce principe-là qui va tout changer dans l'éducation nationale tout seul. Hein. C'est un élément parmi d'autres. Mais globalement, l'idée de faire davantage confiance aux acteurs de terrain, de permettre aux enseignants d'avoir un interlocuteur qui soit leur chef d'établissement et pas l'inspecteur qui vient une fois tous les X années, etc., c'est vraiment primordial. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'enseignants, notamment en début de carrière, qui se sont très isolés, qui n'ont aucun retour sur ce qu'ils font devant les élèves. Le seul critère objectif pour eux de mesure de leur impact, c'est est-ce qu'on a fini le programme ou pas à la fin de l'année. Et là, si on rentre dans une logique différente, avec un chef d'établissement qui est là pour animer le collectif pédagogique, qui porte le projet pédagogique, eh ben, ça peut changer les choses. Mmh. Sachant que ce qui est très important, c'est que ce n'est pas le chef d'établissement tout seul qui doit faire ça. Sinon, on a un petit chef isolé. Il faut que le chef d'établissement il constitue une véritable équipe avec ses enseignants.
C'est-à-dire avec des parents d'élèves, des enseignants. On va au-delà des enseignants, justement, mais des parents d'élèves là-dedans, par exemple.
Oui, mais si on revient sur les enseignants, ce qui est un primordial, c'est de leur permettre aussi des évolutions de carrière. Ça permettrait par exemple à des enseignants qui ont envie de prendre des responsabilités pour encadrer leurs collègues, pour animer le collectif, je sais pas, l'enseignant doyen dans les matières scientifiques qui va pouvoir porter des choses en lien avec le chef d'établissement pour aider notamment les débutants, les jeunes enseignants en début de carrière et pas les laisser tout seuls aujourd'hui face à l'administration.
Et sans doute autant qu'une question de motivation, tout ça est très subjectif, il y a une réalité de formation peut-être sur laquelle agir.
Oui, ça c'est vraiment évident. Un des principaux points qui remonte, c'est que les enseignants en France se disent suffisamment formés sur leur matière, sur les compétences techniques, les savoirs qu'ils doivent transmettre, mais par contre ils sont très peu accompagnés, ils le disent eux-mêmes, hein, sur la gestion de classe, comment on pose son autorité, comment est-ce qu'on transmet les savoirs qu'on maîtrise. Donc ça, il y a un enjeu clé de la formation et puis de l'évaluation, parce que c'est bien beau de donner de la responsabilité aux acteurs de terrain, mais il faut s'assurer qu'ils font un bon usage de cette responsabilité, donc il faut aussi mieux évaluer les établissements et notamment l'évaluer dans l'intérêt des enseignants et des élèves.
Marc Vanson, souvent dans ces enjeux d'éducation nationale, on balance entre, allez, j'utilise le mot, des formes de théologie, même si on est dans la laïcité, et des choses très concrètes. Comment on sort de tout ça ?
Non mais justement, hein, il faut être très concret, très objectif, c'est pas des grands débats, etc. C'est voir comment on améliore concrètement les choses. Et on le voit bien, les grandes réformes décidées depuis les bureaux de la rue de Grenelle à Paris, ça marche pas. En revanche, quand on fait confiance aux acteurs de terrain et qu'on leur donne les moyens, il faut aussi des moyens supplémentaires pour permettre de porter ces projets pédagogiques innovants, là, ça marche mieux. En fait, il faut faire confiance aux acteurs de terrain qui sont près des jeunes, qui savent mieux les contraintes du territoire, qui peuvent adapter les projets pédagogiques, pas les laisser tout seuls, mais leur faire davantage confiance et sortir de l'infantilisation qui caractérise aujourd'hui la gestion des ressources humaines dans l'éducation nationale.
Merci beaucoup Marc Vanson, vous êtes le fondateur du Cercle de réflexion vers le haut dédié aux jeunes et à l'éducation.